Vous êtes sur RTL.
h 30, c'est le Tout Info, c'est avec Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info de RTL pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 18 octobre.
Et tout d'abord, la colère d'un homme ce matin, celle de Didier Cornara. Il y a 5 ans, son frère Hervé était la première victime du terrorisme à avoir été décapité sur le sol français. Cet attentat islamiste s'était déroulé à Saint-Quentin-Fallavier en Isère et l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine, le plonge dans un cauchemar qu'il a déjà vécu. Il dénonce l'inaction des pouvoirs publics depuis 2015.
À cette époque-là, les ministres étaient venus nous raconter à nous, la famille, que c'était terrible, qu'ils n'allaient pas laisser faire, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, on n'a rien vu du tout. 5 ans après, on décapite encore un professeur. Et qu'est-ce qu'on voit à la télé? Qu'est-ce qu'on entend les ministres dire? On va faire une journée de respect et on va faire une minute de silence. Au lieu de dire non, là, ça suffit. Les fous de Dieu, les fanatiques, ces gens-là, mais on va leur faire la guerre? Non, on va faire une minute de silence et puis voilà. Bien sûr que c'est une guerre, enfin, qui l'aurait pas compris? Mais vous vous rendez compte? Sur le trottoir, les gens vous décapitent. Si ça, c'est pas une guerre, il faut m'expliquer ce que c'est, alors.
Didier Cornara, joint pour RTL par Serge Pueyo. Ce matin, Éric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, réclame un référendum pour encadrer la remise en liberté et la surveillance de plusieurs centaines d'islamistes actuellement en prison et qui doivent sortir d'ici 2022.
Et ce matin, Yann, un conseil de défense doit se tenir à l'Élysée autour du président Emmanuel Macron.
Et dans un entretien au JDD, Jean Castex a indiqué travailler à une stratégie de riposte encore plus ferme, plus rapide et plus efficace quand un enseignant subit des menaces, même insidieuses. Il a d'ailleurs réuni à Matignon hier les ministres de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la Justice et il y a urgence à rassurer les enseignants. Ils étaient nombreux à se rassembler hier à Conflans-Sainte-Honorine mais aussi dans plusieurs autres villes. Écoutez ce professeur de mathématiques du lycée Fédère de Lille.
Effrayé parce qu'on se dit que dans notre métier, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas en fait. Je trouve choquant qu'on puisse être censuré. Ça va créer peut-être une peur et donc des collègues vont s'auto-censurer par peur de représailles. Je trouve ça hallucinant que certains collègues doivent s'auto-censurer justement parce qu'il peut se passer des choses comme ça.
Ce professeur de mathématiques au micro RTL de Victorien Villaume. Sur le plan de l'enquête, 10 personnes sont toujours en garde à vue, dont les parents du terroriste et son petit frère, mais aussi le père de l'élève qui a appelé à la mobilisation contre l'enseignant après la présentation de caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression.
Et les hommages à Samuel Paty seront encore nombreux aujourd'hui un peu partout en France.
Rassemblement prévu à Lyon, Strasbourg, Nantes, Marseille ou Bordeaux et bien sûr à Paris, place de la République à partir de 15h. Plusieurs personnalités politiques ont annoncé leur présence, comme le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, l'ancien Premier ministre Manuel Valls ou encore Jean-Luc Mélenchon. Un hommage national sera aussi rendu à Samuel Paty en milieu de semaine, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, un hommage national qui se déroulera mercredi et que l'Élysée organise en coordination avec la famille de l'enseignant assassiné. Le lieu restait hier soir à déterminer. Le plus souvent, lorsqu'un hommage national est décidé par le chef de l'État, il se déroule dans la cour des Invalides. C'est vrai pour les militaires tombés en mission, mais aussi pour de précédentes victimes du terrorisme, comme les 130 du Bataclan, le gendarme Arnaud Eltram ou le policier Xavier Jugelet. Pour les victimes de Charlie, en revanche, il n'y avait pas eu de cérémonie aux Invalides, mais la grande marche du 11 janvier et une minute de silence dans tout le pays. Pour associer l'ensemble des enseignants et des élèves, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a d'ailleurs annoncé qu'une minute de silence serait consacrée à l'enseignant le jour de la rentrée des vacances de Toussaint, le 2 novembre prochain.
Marie-Bénédicte Allaire. En bref, une première nuit sous le régime du couvre-feu pour 20 millions de personnes dans 8 métropoles et la région parisienne. Et puis, nouveau record de contamination avec plus de 32 000 cas en 24 heures et un taux de positivité qui s'élève désormais à 13,1%. Le gouvernement lui revoit sa copie. Jean Castex a annoncé que l'aide de 150 euros dévoilée cette semaine à destination des plus précaires serait finalement étendue aux jeunes bénéficiaires des aides au logement ainsi qu'aux étudiants boursiers, ce qui touche quand même 400 000 personnes.
Le Covid, le couvre-feu, le terrorisme, autant de sujets sur la table du grand jury RTL Le Figaro LCI à partir de midi tout à l'heure, midi 13h. C'est Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui fera face à Benjamin Sportouche.
Aux États-Unis, Donald Trump est reparti en campagne après son test positif au Covid. Il était hier en meeting dans l'État du Michigan et il a voulu évoquer les réalisations menées pendant son mandat, notamment son retrait en 2016 de l'accord de Paris sur le climat. Et il n'a pas bien retenu visiblement quelle était la fonction exacte d'Emmanuel Macron.
Vous savez ce que j'ai arrêté d'autre? L'accord de Paris sur l'environnement. Et j'aime beaucoup le Premier ministre Macron, mais j'ai dit, comment ça se passe là-bas? Comment va l'accord? Ça se passe pas très bien.
À propos recueilli par notre correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet, selon les derniers sondages à J-16 de l'élection du 3 novembre, le président américain possède 9 points de retard au niveau national sur le démocrate Joe Biden.
Le football et Marseille qui se replace en Ligue 1.
L'OM s'est imposé 3-1 devant Bordeaux hier avec notamment un but de Thauvin et un autre d'Amavi. Revient à la 5e place du classement. De bon augure avant la Ligue des Champions et un déplacement mercredi chez les Grecs de l'Olympiakos. L'entraîneur André Villas-Boas en salive déjà.
Au moins, on va là avec un peu plus de confiance. On va profiter de cette rêve qu'on a réussi l'année dernière, finalement. Dommage que c'est sans public, parce que c'est vrai que jouer en Grèce avec le public grec, c'est chaud et intense aussi. Sortir avec une victoire de là-bas, c'est exceptionnel. Sortir avec un point, c'est aussi bon pour nous. Ça va être dur aussi.
André Villas-Boas avec Hugo Hamelin, toujours en Ligue 1. Lorient l'a emporté à Reims 3-1. Suite et fin de la 7e journée avec Lille-Lens en clôture à 21h. Le derby du Nord à vivre dans RTL Foot. En Ligue 2, le Paris FC conserve la tête après sa victoire sur Pau 1-0. Et puis Corinne Diacre, positive au Covid-19. La sélectionneuse des Bleus sera absente du rassemblement qui débute aujourd'hui. Elle coachera à distance. Le rugby et pas de Coupe d'Europe pour le Racing 92. Les Franciliens se sont inclinés 31-27 hier face aux Anglais d'Exeter. C'est la 3e finale perdue par le Racing après celle de 2016 et 2018. En top 14, victoire de Toulouse hier à Brive 36-14. De La Rochelle 62-3 face à Castres. De Montpellier devant Agen 42-13. Et de Pau face à Bordeaux-Bègles 29-24. Et puis cette nuit, la Nouvelle-Zélande, les All Blacks ont largement dominé l'Australie 27-7 à Auckland. En MotoGP, malgré une lourde chute, le Français Fabio Quartararo a décroché la pole position pour le Grand Prix d'Aragon prévu cet après-midi à 15h. Enfin, un mot de cyclisme avec le Tour des Flandres, la classique belge à laquelle participera cet après-midi le champion du monde français, Julien Alaphilippe. On croise les doigts.
Ça fait de l'actu tout ça. Merci. Bien sûr, les détails sont accessibles sur notre site rtl.fr. Merci Yann. On vous retrouve à 10h pour tout savoir, comme d'habitude, sur RTL. Vous le savez, dans un instant, on va se promener. Nos balades, c'est avec Jean-Sébastien ce matin. Bonjour Jean-Sébastien.
Mais bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On va aller à Reims et on se passe de Louana. Elle n'est pas là ce matin. On l'embrasse très fort, évidemment. Elle est restée à la maison, au chaud. Michel Simès a rendez-vous avec vous tout à l'heure sur RTL à 9h15 avec toute son équipe de Ça va beaucoup mieux et on vous attend très nombreux au 3210 pour dialoguer avec Michel et ses nombreux invités. On va vous dire par exemple qu'il y aura une psy qui vous sera dédiée, il y aura consultation pas chère ce matin, Sophie Peters, pour savoir comment on vit le couvre-feu concrètement, comment le vivre au mieux. C'est vrai que c'est une situation qui est assez inédite pour 20 millions de Français depuis hier soir. Venez nous raconter votre quotidien par rapport à ça au 3210. Et puis comment vous vivez aussi le fait d'être privé de sport le soir et tôt le matin, si vous êtes comme Pascal, mon réalisateur, qui fait des pompes sur le trottoir à 5h ou qui fait un footing le soir à 21h30, vous n'hésitez pas, 3210, on vous aidera aussi. Michel Simès, son équipe, ça va beaucoup mieux, c'est 9h15, vos appels, le standard, il est ouvert. C'est parti, 3-2-1-0, promis, on se balade juste après ça.